Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est toujours une joie et encore une joie de me retrouver parmi vous, et pouvoir partager la parole, de pouvoir louer le Seigneur et de partager sa parole ensemble, ce merveilleux message qu'est la Bible. Quel est mon chemin ? Quel est mon chemin ? Quel a été mon chemin ? Quel est votre chemin ? Vous avez compris que nous allons plutôt nous orienter sur le chemin au sens figuré, hein, pas la route. Et deux autres termes sont utilisés pour le chemin, c'est la voie ou le sentier. Ce qui s'applique à la façon d'agir de Dieu. Vous savez que les voies du Seigneur sont droites et justes. Psaume 145, verset 17, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies. » Mais les voies de l'homme ne sont pas celles de Dieu. Dans Ésaïe, au chapitre 55, versets 7 et 8, « Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Et puis dans Actes 16, au verset 17, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Quelle voie suivons-nous ? Il y en a juste deux possibles, deux alternatives possibles, deux façons de vivre, deux façons de se comporter, deux façons de suivre une voie. Celui qui se préserve du mal, qui s'en sépare et s'en éloigne, il se rapproche de Dieu et lui obéit. Ce chemin ou cette voie choisie est marqué par la bénédiction de Dieu que l'on retrouve dans les versets. La stabilité, la fécondité, la vitalité et le succès. Et puis est opposé celui qui ne suit pas cette voie. La mort éternelle assurée, une vie de péché et de condamnation. Deux voies possibles. Je vous propose, au travers de cet exemple, de voir la position et l'attitude des protagonistes suivants à un moment de leur existence et les conséquences et le résultat. Voilà, donc j'ai extrait cet exemple de la Bible. J'ai d'abord pensé au bon samaritain. Vous souvenez de cette histoire que vous trouvez dans Luc 10, un homme descendait, donc je vais lire rapidement pour bien se remettre dans le contexte de cette parabole que Jésus a utilisée. Hein. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, donc il est en chemin, il tombe au milieu des brigands qui le dépouillent, le rouèrent de coups, s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva dans ce lieu, l'ayant vu sur le même chemin, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jésus a utilisé cette parabole pour expliquer qui était le prochain de ce Samaritain. J'aimerais souligner dans ce premier point ce paradoxe. Cet homme, ce juif, sauvé par un Samaritain, son ennemi. Et là, il a dû revoir sa pensée envers cet homme. D'ennemi, il est devenu ami, et l'autre d'ennemi est devenu sauveur. Vous voyez comment leurs chemins se sont rencontrés et comment leurs voies ont évolué. Et puis un autre exemple, l'exemple de Zachée. Donc c'est vrai qu'on en parle assez rarement, mais c'est un petit épisode dans le cheminement de Jésus, et là qu'on le retrouve dans Luc 19. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Donc il courut en avant, il monte sur un sycomore, un arbre, pour voir Jésus. Qui c'est Jésus ? Parce que Jésus devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et vit. Il a vu Zachée et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : oh, Jésus va aller chez un homme pécheur. Enfin, vous savez, les bonnes langues, comment parfois ça peut bien remuer. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit : le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi, un fils d'Abraham, est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que Zachée voulait seulement voir qui était Jésus. Qui c'est ce gars à qui on parle, de qui l'on parle ? La curiosité. Mais tant mieux pour lui, cette curiosité lui a permis de rencontrer Jésus. Il n'a pas pu se dissimuler aux yeux de Jésus. J'aimerais souligner ce dernier verset, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. À la rencontre de Jésus, regardez comment les voies de Zachée ont changé. Continuons à marcher, nous, sur notre chemin. Passons à un troisième exemple. Vous savez, après la crucifixion de Jésus et sa résurrection, certains disciples se sont dispersés et certains se sont même sentis perdus, orphelins, abandonnés. Et il y a quelques disciples, hein, sur le chemin d'Emmaüs, sont là en train de marcher et ils discutent. Et puis, d'un coup, quelqu'un vient à leur hauteur. Mais qui est cette personne ? Qui vient descendre sur leur chemin ? Luc 24, à partir du verset 13. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Ils sont en chemin. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. La condamnation de Jésus, sa crucifixion et sa résurrection. Et il est écrit, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, Jésus leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ? Rappelons que ce sont des disciples de Jésus. L'un d'eux lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ?
Quoi ?
Leur dit-il. Bien sûr qu'ils savaient ce qui s'était passé. Ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs, et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Alors quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors ils sont revenus rapporter ces choses. Alors Jésus leur dit : Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua toutes les Écritures. Arrivés au village, ils ont demandé à Jésus de venir manger avec lui. Donc Jésus dit : Il est allé. Et pendant qu'il était à table, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais Jésus disparut devant eux. Quel était le but de cette rencontre avec les disciples sur ce chemin ? Les disciples, tristes, se sentant abandonnés. Et puis voyons combien d'allers-retours, combien de chemins ont été parcourus pour aller voir, rapporter, aller revoir pour constater et revenir rapporter. À souligner dans cet exemple, ce qu'il faut en retenir, c'est que Jésus est à nos côtés. Et il arrive. Malheureusement, parfois, je ne le vois pas et je ne l'entends pas. Je me laisse emporter par mes pensées loin du Seigneur, au point de perdre le son et l'image. Les disciples ont perdu le son et l'image de Jésus. Je m'égare, je me débats, seul au point de parfois peut-être me dire : Mais où est Dieu ? Combien de fois est-ce que cela m'est arrivé ? Est-ce que cela m'est arrivé ? Est-ce que je puis dire que cela ne m'arrivera jamais ? Attention à nous chrétiens de prendre garde, de ne pas être gagnés par le découragement, parfois, par des questions pour des circonstances et dans des circonstances que nous ne comprendrions pas, mais qui nous ferait perdre le contact avec notre Seigneur Jésus qui marche à nos côtés. Et puis souvenez-vous de cette Samaritaine. Cette femme veut éviter absolument la foule, les voisins, les gens du village. Et pour se rendre à midi, donc en pleine chaleur, pour aller puiser de l'eau. Mais quand elle se rend en ce puits, quelqu'un l'attend au bout de son chemin. C'est Jésus. Jésus doit passer par le territoire ennemi. Il va encore défier la logique. Comment un juif demander à une femme samaritaine de lui puiser de l'eau ? Souvenons-nous, dans Jean 4, Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Pardon. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure, donc midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Souvenons-nous de l'histoire, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, « Mais si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire ?» tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui en a bu lui-même ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici. » Elle avait transposé selon son propre besoin. Et Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » C'est très bien où Jésus voulait en venir. La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. » A souligner dans cet exemple, cette rencontre encore avec Jésus. Dieu connaît toutes choses. Et cela ne sert à rien de le cacher ou d'éviter le regard des autres. La vie de cette femme a changé. Elle a rencontré celui qui connaît tout. Et à la fin de cette histoire, la femme dit à Jésus, « Je sais que le Messie doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Quel changement pour cette femme d'avoir rencontré Jésus sur son chemin, au bout de son chemin. J'aimerais vous transporter maintenant sur le mont Golgotha. Beaucoup d'événements, beaucoup de destins, beaucoup d'attitudes et de voix différentes sur cet épisode de Golgotha. D'abord simplement, une rencontre simple. Simon de Cyrène, qui revenait des champs, croisa le chemin de Jésus et lui-même porta la croix de Jésus. Luc chapitre 23, verset 26. Et puis on constate aussi une grande foule qui suivait Jésus en pleurant. Mais d'autres se moquaient, crachaient, l'injuriaient. Deux attitudes différentes et bien opposées. Et puis, à Golgotha, ces trois croix. Le cheminement terrestre se termine pour les suppliciés. Plus que quelques heures à vivre. Et après, les deux brigands crucifiés de chaque côté de Jésus avaient choisi un chemin opposé à celui-ci, le chemin de la perdition. Plus le temps de réfléchir à demain. Et pourtant, l'on voit que l'un a changé de direction, au verset 40, mais l'autre, non. Même vie, même punition, même mort physique, et pourtant une vie sauvée, et quand bien même l'homme nous aurait condamnés à mort. Ce qui est important de souligner par rapport à notre thème, c'est que Dieu use de patience. Il est dit que Dieu use de patience, même dans les derniers instants. Mais quand il se manifeste et nous parle, attention de ne pas faire la sourde oreille, car le résultat peut être tout autre. Plus le temps de réfléchir, à quel moment est-ce que nous serions capables de dire « Oui, je parlerai à Jésus avant que mon souffle ne s'éteigne, en aurais-je le temps ?» En aurais-je le temps ? Certes non. Et puis quelques autres, rapidement, quelques autres petits exemples comme ça, de chemins qui se croisent, de voies qui changent. Vous savez, le jeune homme riche, on en a déjà parlé, il n'a pas fait l'expérience du changement de voie, car il a quitté Jésus tout triste, parce que sa voie n'était pas compatible avec celle de Dieu. Pourtant, lorsqu'on lit le début de ce récit, on se dit, mais il suit la bonne voie, cet homme. Mais non, Jésus lui montre que non. À souligner, on ne peut servir de maître. On ne peut suivre deux chemins. Et Jésus dit à un autre, suis-moi. Et ce dernier répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Là, ce qu'il faut souligner, c'est que l'appel du Seigneur est plus fort que tout et dépasse notre compréhension. Et souvenez-vous de cette femme adultère, dans Jean 8. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, en flagrant délit. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, maître, là, ils savent dire maître. Cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider cette femme. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver. Ce n'était point la première fois. Afin de pouvoir accuser Jésus. Mais Jésus s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant à nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendurent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec cette femme. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Mais femme, où sont donc ceux qui t'accusaient ? Pourquoi ne t'a-t-il condamné ? Non, personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » À souligner que Dieu est au-dessus de tout. Et attention, quand nous jugeons les autres, de ne pas nous retrouver dans cette situation-là, où Jésus nous dirait, ben, si tu es sans péché, jette-lui la première pierre. Enfin, cette femme a vu sa vie sauvée in extremis. Son chemin aurait pu s'arrêter là, elle aurait pu être lapidée, mais Jésus lui a sauvé la vie physique et assurément sa vie morale. Dieu est un Dieu de pardon et non de condamnation pour qui se repent, pour qui change de chemin. Et enfin Jésus, septième et dernier point, Jésus, il y en aurait tellement à dire, mais juste quelques phrases, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est la voie vers le ciel. Il est venu sur terre pour nous montrer la bonne voie à suivre, nous donner les bons exemples. Il a cheminé, il a fait beaucoup de chemin à Jésus. Il a croisé beaucoup de personnes. Il a emmené ses disciples avec lui. Il les a lui-même après envoyés cheminer. Mais vous savez, je peux me trouver aussi le long du chemin, un peu comme Zachée, par curiosité. Peut-être à un moment où Jésus passe. Et puis je le regarde, je le suis du regard, et je le regarde s'éloigner. Mais je ne prends pas le chemin. Pourtant, Jésus est venu ramasser ceux qui se trouvent le long du chemin, les laisser pour compte, les affliger, afin de les remettre dans le bon chemin, sur la bonne voie. Jésus peut croiser notre chemin, il peut venir à notre rencontre, il peut se mettre à notre hauteur et il peut descendre sur notre voie. Et vous savez aussi, parfois, le long des routes, vous avez un petit panneau indicateur qui dit « accotement non stabilisé ». Ça veut dire « attention, si vous sortez de la route, gare à vous, danger, accident ». Il est risqué de s'éloigner de ce chemin. Souvenons-nous de cette parole. Étroit est le chemin qui mène à Dieu, mais large est le chemin de la perdition. Et bien aimé, ces quelques exemples pour nous montrer que quand Jésus croise notre chemin, il y a une révolution dans notre cheminement terrestre, mais aussi dans notre cheminement de pensée. Et notre objectif n'est plus le même, et notre voie ne nous conduit plus au même endroit. Mais, même si Dieu use de patience, quand il nous appelle, ne pas rater son appel. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse également. Amen.